Yes, what that they do. If all treated the ship with pain instead of walls, then we can. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les douze et s'arrêta sur un terrain. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les pauvres. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous, parce que tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur père traite les pauvres. Acclamons la parole de Dieu. Saint Paul est peut-être le plus grand mystique. En tout cas, c'est l'un des plus grands mystiques de l'Église. Et il nous dit aujourd'hui, dans cette lettre aux Corinthiens, si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes le plus à plaindre. Nous sommes placés devant la violence de ces paroles du Christ. alternative à laquelle nous vivons. Nous arrivons après Nietzsche qui disait: quel a été jusqu'ici le plus grand péché commis sur la terre? N'est-ce pas la parole de celui qui a dit: malheur à ceux qui ont fait? En fait, nous ne pouvons pas nous en parler. Là-dessus, finalement, on est à peu près sur la même longueur de Nietzsche. On n'a pas envie de les écouter. On n'a pas envie de les écouter. Bien content que les autres aillent bien, et on est bien heureux et bien heureux. Je propose trois petites choses pour essayer de rentrer dans ces béatitudes, pas pour les écouter, mais pour rentrer dedans. La première chose, c'est de se dire: Jésus s'adresse à ses disciples. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclare. Jésus n'est pas en train de donner une espèce de morale universelle qui est toujours applicable. Il est en train de parler à ses disciples. Il est en train de parler à ceux qui sont en train de le suivre. Pour entrer dans les béatitudes, il faut commencer à suivre Jésus. Les béatitudes ne sont pas compréhensibles de l'extérieur. Les béatitudes ne sont pas une morale laïcisée. Les béatitudes nécessitent de façon absolue la suite du Christ. Elles nécessitent de prendre le chemin du Christ pour comprendre ce que Jésus est en train de faire. Parce qu'en fait, ce qu'il est en train de dire Jésus, c'est ce qu'il dit. C'est son portrait, il est en train de donner son portrait spirituel. On dit de Jésus dans l'évangile qu'il a fait. On ne dit pas dans l'évangile que Jésus a fait. Aucun mot. On dit que Jésus exulte l'action de l'Esprit Saint. On dit que Jésus se réjouit jamais. On ne dit que Jésus a fait. En revanche, Jésus pleure à plusieurs reprises. Jésus est en train de nous dire quelque chose de plus grand. Et pour entrer dans ces béatitudes, pour commencer par poser notre regard sur le Christ. Parce que c'est finalement le Christ qui va nous permettre de comprendre le choix que nous sommes en train de faire. Ce que nous choisissons, ce n'est pas d'abord les larmes. Ce que nous choisissons, c'est d'abord le Christ. Le Christ est venu. Il est venu dans notre vie. Il est venu briser quelque chose. Il est venu ouvrir une brèche. Et depuis, nous suivons Jésus. Nous suivons Jésus et Jésus nous conduit par des chemins que nous n'aurions pas imaginés. Et il est capable de nous conduire sur des chemins où nous arrivons à nous dire au bout d'un moment, bien heureux sont. La deuxième chose, c'est la grande, grande erreur de Nietzsche. C'est que Nietzsche est l'homme de la terre. Il refuse le ciel. Il veut que nous vivions aujourd'hui parce qu'il n'y a que la terre. Jésus ne nous propose pas une révolution. Il ne nous propose pas de changer. La révolution, c'est le tour d'un astre. Il revient à sa position. Jésus vient agrandir, vient changer le plan, vient montrer la réalité telle qu'elle est. La réalité de ce monde n'est pas simplement naturelle. La réalité de ce monde est naturelle et surnaturelle. Et ça, seule la suite du Christ peut vraiment nous ouvrir dans ce monde surnaturel, découvrir que il y a effectivement celui qui pleure à la suite du Christ une véritable consolation. Et une consolation qui n'est pas une consolation naturelle, qui n'est pas une consolation de son monde, mais qui est une consolation pour un autre endroit. Et la consolation surnaturelle, et la consolation de la vie. Et si le disciple est capable d'avancer sur cette route, c'est pas simplement parce qu'il y a des larmes, c'est parce qu'il y a autre chose. Nous savons que depuis que nous suivons le Christ, nous sommes engagés dans autre chose. Le Christ nous a ouvert autre chose. Il nous a ouvert le royaume de la grâce. Malheureux 16 ans. Si l'homme commence à voir et à vivre à partir de Dieu, s'il marche en compagnie de Jésus, alors il vivra selon de nouveaux critères et quelque chose de l'escapade de ce qui doit venir est déjà présent maintenant. Ou plutôt déjà quelque chose du royaume de Dieu. Dans la loi de raconter l'histoire d'un vieux paysan du roi Richard, ce paysan avait un fils qui a fait des bonnes études, bien réussies. Et ce vieux monsieur était bien triste que ça réussisse si bien pour son fils. Ce qu'il disait, là finalement, nous n'avons pas mangé. Cette alternative. Un autre lieu auquel nous pouvons penser, c'est l'autre. L'autre, c'est d'une certaine manière, c'est un lieu pour voir des lieux. On voit ce qui pleure, et on voit une consolation qui n'est pas. Une consolation, c'est qu'on apporte une autre. Une consolation à l'autre. La troisième chose à avoir aux béatitudes, c'est de se dire finalement la clé des béatitudes, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Et tant que nous ne prenons pas cette clé, nous ne pouvons pas entrer dans la vie. Et tant que nous ne prenons pas cette clé, nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe, nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe. Refuser. Si on pousse bien la logique du problème, c'est refuser la croix. Et refuser la croix, c'est refuser la résurrection. Si nous refusons la souffrance, si nous refusons le sacrifice, si nous refusons la croix, on refuse le chemin de notre vie de Christ. Si nous voulons l'Eucharistie, qui est l'Eucharistie où tout est propre, tout est confortable, et finalement il n'y a pas de sacrifice, bon, ça peut être célébré très proprement, hein, ça peut être très beau, ça peut être esthétiquement superbe. Benoît XVI, toujours, les béatitudes sont la transposition de la croix et de la résurrection dans l'existence de Christ. Aujourd'hui, le Christ donne le chemin de la vie. Ce chemin qui l'a pris, qui l'a conduit jusqu'à la mort, c'est la mort qui l'a conduit à la résurrection. Lorsque nous voyons nos frères qui souffrent, lorsque nous souffrons, ne diluons pas cette souffrance. La souffrance est réelle, mais ne la diluons pas.